Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwoo Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwoo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'idées reçues sont encore associées à la ménopause, cette période durant laquelle l'activité ovarienne s'arrête. Ces années au cours desquelles le cycle menstruel se perturbe d'abord, avant de s'interrompre tout à fait. Pour beaucoup, la ménopause est davantage définie par les troubles qui lui sont attachés que par sa stricte description, cet état physiologique féminin caractérisé par une modification hormonale. L'occasion donc de rappeler à ceux qui en doutent encore que la ménopause n'est pas une maladie, que chaque parcours de femme est singulier et que si certaines manifestations comme les bouffées de chaleur ou les sauts d'humeur sont possibles, elles ne sont ni systématiques ni irrémédiables. Nous allons donc parler de prévention, de prise en charge, accompagnement de la ménopause au cours de cette émission. Quelles recommandations pour limiter l'impact de certaines pathologies qui peuvent survenir à cette période de la vie des femmes? Et puis quels conseils, bien sûr, pour préserver sa santé, santé osseuse, santé cardiaque et également le confort et la santé sexuelle? Journée mondiale de la ménopause. Avec nous en studio, docteur Alain Tamborini, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes gynécologue attaché à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à notre sujet du jour et nous serons tout à l'heure en ligne du Burkina Faso avec le professeur Françoise Milogo, chef de service de gynécologie au centre hospitalier universitaire Yael Gado Ouédraogo de Ouagadougou. Et en fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à des questions d'auditeurs. Toutes vos questions, vous pouvez bien sûr nous les poser au 33 84 22 75 75 et bien sûr sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors, cette phrase, on la lit, on l'entend, docteur Alain Tamborini, la ménopause n'est pas une maladie, phénomène naturel. Beaucoup de femmes qui vous consultent assimilent encore la ménopause aux troubles, on va dire, aux problèmes liés à tous ces changements hormonaux. Ils viennent en disant, en fait, j'ai la ménopause, ça ne va pas.
Disons qu'il faut savoir aussi que la définition de la bonne santé de l'OMS, c'est la personne est en bonne santé, la personne qui a un complet bien-être physique, psychologique et social. Donc dans la ménopause n'est pas une maladie, mais dans la mesure où elle peut altérer c'est la sensation de bien-être physique, psychologique et social, donc elle peut être considérée quand même comme une altération de la qualité de vie. D'ailleurs, les traitements hormonaux, leur indication, c'est l'altération de la qualité de vie.
Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes, docteur Tamborini, qui traversent cette période sans subir, on va dire, on peut subir des changements, mais sans se plaindre, on va dire.
Alors disons, sans subir de changements, sans subir de bouffées de chaleur, une sur quatre. Donc les bouffées de chaleur qui sont les troubles peut-être les plus spectaculaires de la ménopause, qui s'accompagnent d'un cortège de signes fonctionnels comme l'insomnie, les sueurs, ça va concerner quand même trois femmes sur quatre. Et je dirais déjà que le trouble de la ménopause n'ont pas de frontières sociologiques, culturelles, géographiques. C'est-à-dire vous trouvez des troubles de la ménopause dans pratiquement tous les pays du monde, mais peut-être avec une petite différence pour les troubles psychologiques qui sont peut-être vécus de façon différente suivant les sociétés dans lesquelles on vit. Et il semblerait que la société occidentale soit un petit peu plus difficile à vivre, la ménopause en société occidentale.
Et la plupart des femmes, elles ressentent l'arrivée de cette période par l'espacement des règles, par un cycle irrégulier ou justement par ces manifestations annexes.
Alors déjà, dans 99% des cas, on ne va pas passer de cycle régulier à la ménopause du jour au lendemain, on va passer par une période intermédiaire que les femmes appellent la préménopause, ce que nous on appelle plutôt la périménopause, qui dure en moyenne 3 à 4 ans, avec une période d'anarchie hormonale. C'est une période un petit peu de tempête hormonale où les taux hormonaux font un petit peu des montagnes russes. C'est une période particulièrement difficile à vivre pour les femmes. C'est à cette période-là que commencent les bouffées. C'est à cette période-là que commence souvent une prise de poids. Difficile à vivre, délicate à traiter pour le praticien. Donc ça va durer quand même en moyenne 3 à 4 ans. Je dis en moyenne parce que concernant l'âge de la ménopause, il y a une grande variabilité d'une femme à l'autre, même si la moyenne d'âge de la ménopause c'est à peu près 50-51 ans, mais c'est le sommet de la courbe de Gauss pour ceux qui ont fait des statistiques, mais on va dire que c'est une grande diversité. Il y a 10% des femmes qui seront ménopausées avant 45 ans et 10% qui ne le sont pas encore à 55.
Alors maintenant sur la prise en charge, oui. Est-ce que beaucoup de femmes vivent cette ménopause sans prise en charge spécifique, voire même ne change rien à leur consultation, ou en général, on va quand même voir son gynécologue quand on ressent ces changements, même sans avoir de problème, docteur Tamborini.
Déjà, je dirais qu'avec ou sans trouble, il est bon, en particulier après l'âge de 40 ans, d'être surveillé cliniquement, radiologiquement, puisque c'est l'âge après 40 et a fortiori après 45 ans où apparaissent des pathologies bénignes ou malignes, la fréquence du cancer du sein, c'est l'âge où on peut avoir une descente d'organes, des fibromes, etc. Donc tout le monde, avec ou sans trouble, doit bénéficier d'une surveillance gynécologique et en général donc très très régulière. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ont des troubles et ne consultent pas. Je dirais malheureusement, donc s'il y a un message à faire passer, c'est que si on est vraiment très gêné avec une altération de la qualité de vie, il faut pas se résigner. Il faut donc en parler à son médecin. Encore faut-il avoir accès au médecin. Encore faut-il avoir accès au gynécologue, ce qui est pas toujours évident parce qu'il y a aussi, en particulier en France, de plus en plus une certaine pénurie de gynéco. Donc, c'est pas toujours facile de consulter, mais disons que 3 femmes sur 4 ont quand même des troubles, mais tout le monde ne consulte pas, mais malheureusement, quelquefois, certaines se résignent avec fataliste résignation ou philosophie, et donc je leur conseillais, ne vous résignez pas, il y a des troubles, il faut consulter.
Justement, parmi ces troubles, on les a pas encore cités, il peut y avoir des douleurs. À quoi sont dues ces douleurs, docteur Alain Tamborini?
On peut avoir ce qu'on appelle effectivement, en période de carence hormonale, ce qu'on appelle des douleurs ostéo-articulaires, donc parce qu'il y a un effet osseux et sur les articulations des œstrogènes. Donc quand on a un tarissement de ces sécrétions, on peut avoir ce genre de douleur, une sécheresse vaginale, voilà. Enfin, le trouble le plus spectaculaire assimilé à la ménopause sont quand même les troubles, ce qu'on appelle les troubles vasomoteurs, les bouffées de chaleur qui s'accompagnent souvent de sueur. C'est une onde qui va parcourir le corps de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, qui dure 30 secondes à 2 minutes, qui se termine souvent par une sueur. Alors si ça arrive, alors on peut voir des personnes qu'on en a une ou deux, puis d'autres qu'on en a 10 par jour, 10 par nuit, avec l'insomnie, le maquillage qu'ils font, et ça, c'est jamais grave, mais toujours très gênant, et ça peut perturber la vie sociale.
Et justement, vous avez cité la nuit, on parle aussi de troubles du sommeil, c'est associé justement à ces bouffées de chaleur, ou c'est quelque chose de différent?
C'est associé aux bouffées de chaleur, c'est-à-dire le même mécanisme qui va déclencher la bouffée, déclenche le réveil, et en général, pour celles qui ont ces bouffées, elles doivent se rendre compte que le phénomène de réveil précède de quelques secondes la bouffée de chaleur. Donc c'est le même dérèglement au niveau ce qu'on appelle de l'hypothalamus qui commande le cycle menstruel et qui commande le centre de la thermorégulation dans le cerveau antérieur, donc qui va déclencher voilà, et ça va durer très longtemps puisqu'il faut quand même le dire, la moyenne de durée des bouffées de chaleur c'est 7 ans et demi et qu'une personne sur 4 en aura encore 10 ans après la ménopause et tous les jours, nous les gynécologues nous voyons des femmes de 70 ans avec des bouffées de chaleur qui, pour parler de façon un peu vulgaire, leur pourrissent l'existence.
Alors justement, pour certaines c'est très intense, pour d'autres c'est beaucoup moins. Est-ce
Tout
que vous
fait.
Avez observé en consultation par exemple une hérédité des femmes qui disaient c'était pareil pour ma mère ou à l'inverse des choses qui arrivent de façon totalement singulière?
Non, on peut pas vraiment considérer ça parce que des femmes sont très gênées, elles disent ma mère n'a rien eu, ma sœur n'a rien eu. Donc voilà, par contre, il peut y avoir une petite prédisposition familiale à la survenue précoce ou tardive de la ménopause, mais cette prédisposition souffre de nombreuses exceptions et donc on peut pas considérer ça comme une règle.
Est-ce que comment expliquer, on a parlé de phénomènes momentané ou même plus durable, la prise de poids. Hein. Souvent, on associe cette période à une prise de poids pour les femmes avec certains pourcentages en fonction des personnes, des habitudes. Comment on l'explique?
C'est une modification du métabolisme, en particulier dans les sociétés occidentales. Il y a une prise de poids, effectivement, malheureusement, au risque de déprimer les auditrices. Ça représente presque 4 femmes sur 5 au moment de la ménopause. Et au moment de la périménopause, surtout. Et surtout, il y a ce qu'on appelle une modification de la silhouette. C'est-à-dire, à poids égal, il y a un alourdissement de la cellulite, puisque la prise de poids est quasiment exclusivement abdominale. Donc, toutes les femmes, à partir de 45 ans, devraient être prévenues de cette évolution et donc prendre des décisions héroïque pour essayer de limiter, donc manger moins, manger mieux, puis bouger un petit peu plus, faire un minimum d'exercice physique, voilà.
Alors, cette émission, bien sûr, elle se fait avec les auditeurs, avec les auditrices, mais ce qui se passe, et ce que n'entendent pas les auditeurs de Priorité en Santé en ce moment, c'est que notre standard est tombé en panne. Donc, on va essayer de réparer tout ça, on va repousser un petit peu le moment des questions,
Très bien.
On va continuer notre échange, justement, parce qu'il y a énormément de choses à dire,
tout
notamment en matière de traitement de la ménopause.
Oui.
Justement, Quel type de prise en charge pour traiter la ménopause ?
Bon, alors déjà, comme nous en avons parlé, une hygiène de vie alimentaire et un minimum d'exercice physique, lutter contre la sédentarité, le tabagisme, assurer la ration calcique, avoir une surveillance aussi médicale et gynécologique. Et puis après, quand on est vraiment très gêné, quand on considère qu'on a une altération de la qualité de vie, on peut envisager des traitements. Alors, il faut bien comprendre que la ménopause, c'est une carence hormonale. Donc, le meilleur traitement de la ménopause, c'est quand même de donner un traitement hormonal, en particulier œstrogénique. Parce que traiter la ménopause sans hormones, c'est comme si vous me demandez de traiter un diabète insulino-dépendant sans insuline. Donc, il y a des traitements non hormonaux qui s'adressent exclusivement à ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, comme les bouffées, les sueurs, mais qui ne traiteront pas l'ensemble des troubles de la ménopause, comme par exemple la sécheresse vaginale, qui un jour ou l'autre va altérer les relations sexuelles, ou l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte osseuse qui va concerner, comme nous en avons parlé, essentiellement les femmes, pour trois raisons, parce que vous savez que de 20 à 40 ans, on va constituer son capital, jusqu'à 20 ans, on constitue son capital osseux. De 20 à 40 ans, eh bien, on est en plateau, et à partir de 40 ans, les hommes comme les femmes, on perd de l'os. Alors, l'ostéoporose va toucher surtout les femmes pour trois raisons. Le capital osseux des femmes est inférieur à celui des hommes. Il y a l'accélération de la perte osseuse au moment de la ménopause, et puis quand les femmes vont se casser, le col du fémur, eh ben, nous, malheureusement, les hommes, on est déjà tous morts, victimes de l'hécatombe cardiovasculaire.
Votre histoire, ça rassure pas tout le monde. En tout cas, ce qui nous rassure, voilà, c'est qu'on a au moins réussi, oui, à avoir une auditrice en ligne. Et cette auditrice, elle n'est en ligne du Burkina, d'Ouagadougou, et c'est Awa. Bonjour, Awa.
Bonjour.
Enchantée de vous parler, on vous écoute.
Ok. Bonjour à l'équipe de Priorité Santé. Bonjour, oui, à tous les auditeurs. Je suis passée par... Une pré-ménopause, je pense, assez longue, parce que j'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur à 45 ans.
Mm-hmm.
Bon, j'ai essayé de supporter, parce que je voyais ma maman qui me montrait ses bouffées de chaleur. En son temps, je ne comprenais pas. Donc, quand j'ai commencé à manifester la même chose, j'ai essayé de gérer, mais ça dérangeait beaucoup, ça me dérangeait beaucoup. Ça dérangeait aussi mon entourage, je pense, hein, parce que au bureau, même quand nous sommes dans une salle climatisée, moi je suis là, je m'évente, parce que quand ça me prend, c'est comme si j'allais m'étouffer. Je suis obligée de prendre un bout de papier pour me faire un peu de vent, pour pouvoir tenir. Et quand ça se manifestait, chaque 30 minutes, ça me revenait. Comme ça, toute la journée, et même la nuit, en période de fraîcheur, quand je me couvre, quand ça m'arrive, je jette toutes les couvertures, et puis bon, ça a été vraiment désagréable. Aujourd'hui, je peux dire que c'est passé, mais bon, j'aimerais savoir si c'est normal.
Et est-ce que vous aviez consulté à ce moment-là, ou est-ce que vous étiez allé voir un médecin?
J'ai consulté. Oui, j'ai essayé de voir un médecin. On m'a prescrit vraiment plein de choses. Il y a eu des comprimants en pareil. Il y en a même que je ne trouvais pas ici. J'ai envoyé acheter à l'extérieur. Et
aucun traitement
alimentaire.
Aucun traitement n'a marché.
Rien n'a marché, sincèrement. Et finalement, j'ai laissé.
Et vous n'avez pas eu de traitement hormonaux ? Vous êtes allé voir un gynécologue ? Vous êtes allé voir quel médecin ?
Oui, des gynécologues. Ils m'ont prescrit des choses.
Qui n'ont pas fonctionné.
Ça n'a jamais marché. Non.
Docteur Alain Tambourini, le fond de la question d'Awa, c'est est-ce que ces bouffées de chaleur très intenses, c'était normal ?
Alors, je dirais, donc, d'abord, je remercie Awa de son témoignage, donc, qui est très instructif, d'ailleurs, parce qu'elle décrit très bien les bouffées de chaleur, puisqu'elle les a vécues. Donc, vous voyez, Awa a des bouffées de chaleur depuis une quinzaine d'années, donc, personne.
C'est long, quand même.
Tous les gynécos, je crois que tous les jours, on voit des patientes qui ont des bouffées de chaleur, donc, de longue durée. Moyenne, 7 ans et demi, mais au bout de 10 ans, il y en a encore une femme sur 4 qui a encore des bouffées. D'autre part, comme elle l'a bien expliqué, c'est très gênant. J'ai vu une toutes les 30 minutes. Je dois dire que là, c'est, effectivement, Awa est particulièrement gênée. D'autre part, la seule chose dont je suis un peu étonné, je crois qu'elle a essayé un petit peu, comme toutes les patientes qui sont gênées, tous les traitements non hormonaux. Je dirais pas que ça marche. Disons que ça marchote chez certaines femmes et pas chez d'autres. Donc, le seul traitement qui va marcher bien, donc, c'est un traitement hormonal substitutif. En général, j'allais dire, dans 99% des cas, on arrive à bout des bouffées de chaleur les plus récalcitrantes. Maintenant, par exemple, en France, nous avons une soixantaine de traitements hormonaux différents. Rien que le fait que l'arsenal hormonal soit aussi diversifié, ça prouve qu'il y a des problèmes. Donc, mais ça nous permet de faire du sur-mesure. Parce que s'il y avait un traitement qui marchait chez tout le monde, je dirais, ça se saurait, on le saurait, tout le monde ferait le même. C'est un peu comme les pilules contraceptives, il y en a une vingtaine. Rien que le fait qu'il y en ait 20, ça prouve qu'il y a un problème. Le jour où il y en a une qui convient à toutes les femmes, eh bien, tout le monde achètera la même. Donc, je pense quand même qu'on peut, justement, à supporter ça pendant une quinzaine d'années.
C'est pour ça que je disais que c'est long, parce que si on prend un traitement, on peut quand même essayer de au moins que ce soit moins intense.
Si on prend un traitement, parce qu'il y a un traitement hormonal, je dirais que dans les mois ou dans les deux mois, on arrive à bout des bouffées les plus récalcitrantes. Maintenant, on est obligé quelquefois de changer la dose, le protocole, la posologie, la voie d'administration, donc de faire un petit peu du sur-mesure. C'est l'intérêt aussi de cet arsenal hormonal très diversifié qui nous permet de nous adapter à chaque patiente en fonction de ses troubles et aussi de ses réactions. Maintenant, je comprends l'appréhension, compte tenu des polémiques qu'il y a eu sur les traitements hormonaux, que certaines femmes ont une certaine réticence vis-à-vis des traitements. Donc, je pense qu'il faut en parler avec son médecin, dialoguer. Mais je vois qu'Awa a quand même eu une très altération de sa qualité de vie pendant plus de 10 ou 15 ans. Alors, je dirais, celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans Awa, surtout consulter.
Pour essayer d'améliorer les choses et ne pas subir.
Il y a des moyens d'améliorer les choses.
Voilà. Et merci beaucoup de votre appel de Ouagadougou. On retrouve tout de suite Koura, qui est en ligne du Sénégal, de Dakar. Bonjour Koura.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Bon, je crois que vous avez répondu en partie à ma question. Bon, moi, ça fait quand même... j'ai commencé à être ménopausée à 48-49 ans. Et dans les premières années, bon, ça se passait plus ou moins bien. Et depuis 6-7 ans, c'est les bouffées de chaleur vraiment qui m'empêchent de vivre. C'est une horreur. Une horreur. Comme à Ouara, bon... en milieu climatisé, qu'il fasse frais, qu'il fasse pas frais, j'ai chaud. C'est vraiment monstrueux, ça vient par bouffer, et là c'est absolument désagréable. Et d'autre part aussi, je voulais savoir si, comme vous l'avez bien dit, mais je le savais déjà, quand c'est un phénomène hormonal, est-ce que ça joue vraiment sur une partie un peu dépressive du caractère? Voilà, ce sont là mes deux principales questions.
Sur les émotions, et justement, face à ces bouffées de chaleur, vous-même, vous avez pensé à un traitement hormonal ou c'est quelque chose qui est...
Oui. J'avais été voir un endocrinologue. J'avais commencé à être traitée avec elle. Bon, ça s'était calmé un peu, mais je ne suis pas retournée. Bon, ça fait maintenant 5-6 ans. Hein. Il va falloir que je reprenne avec elle.
Et vous pouvez nous expliquer éventuellement pourquoi vous avez certaines réticences par rapport au traitement hormonal?
Bon, ben, les hormones, ce sont les hormones. Et je me suis dit, bon, ben, on en a, ça va passer. J'étais un peu hésitante par rapport au changement que ça pouvait induire dans mon fonctionnement en général. Mais bon.
Docteur Alain Tamborini, qu'est-ce que vous pouvez dire à Koura, donc deux aspects, à la fois la gestion des émotions et à la fois un petit peu d'information et rassurer sur justement les effets de ses hormones, peut-être ce qu'ils peuvent lui apporter.
Alors sur la gestion des émotions, je dirais qu'effectivement en périménopause, on peut avoir ce qu'on appelle une accentuation des troubles prémenstruels. Donc une femme qui a déjà une certaine sensibilité au niveau du cycle menstruel, quand les fluctuations hormonales sont légères, on peut comprendre qu'au moment de la périménopause où les hormones font des montagnes russes et on va se retrouver avec des dénivellations d'une intensité, d'une amplitude et d'une brutalité qu'elle a jamais connue, ça puisse être aussi très mal vécu. D'autant plus aussi, ça dépend aussi du milieu. Hein. Comme disait Evelyne Sullereau, une femme vit sa ménopause avec son corps mais aussi avec son cœur. Donc ça dépend aussi de l'environnement familial, conjugal, socio-professionnel. Le milieu socio-professionnel étant quand même relativement peu indulgent, voire cruel envers les personnes qui vieillissent. On nous explique qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans, mais toutes les personnes au chômage à 50-55, plus personne ne trouve du boulot. Donc on est quand même dans un milieu qui est difficile, donc plus des troubles hormonaux, plus quelquefois une prise de poids, on peut comprendre qu'une femme vive très très mal cette période. Voilà. Alors maintenant, pour rassurer Awa, en général les traitements qu'on emploie au moment de la ménopause, ce sont quand même des hormones naturelles, c'est-à-dire ce qu'elle fabriquait auparavant. Et d'autre part, les doses qu'on emploie sont en général beaucoup plus faibles que ce que ses ovaires fabriquent briquet. Donc, je crois qu'il faut pas avoir peur. C'est surveillé. Il faut parler avec son gynéco. On peut l'améliorer. Donc, je vois déjà les deux premiers témoignages qu'on a eus. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment consulter et pas supporter et pas être comme Donkoura ou Awa et supporter avec fatalisme ou résignation ce genre de problème.
Prenez votre ménopause en main, Koura. Ah.
Tout à fait.
Très bonne journée à vous à Dakar au Sénégal. Avant d'essayer d'avoir une autre auditrice en ligne, je vais vous relayer des questions qu'on a reçues par messagerie. C'est Chantal de Montréal au Canada, on la salue, il est un peu tôt là-bas. Elle nous explique, j'ai 51 ans, je suis en ménopause depuis l'âge de 40 ans, je n'ai jamais rencontré une femme ménopausée aussi jeune que moi. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que je suis la seule?
Bon, alors donc, comme on avait dit, il y a une grande variabilité d'âge de la ménopause. À 40 ans, on va considérer que, suivant les études, 1 à 2 % des femmes sont déjà réglées. Sont déjà ménopausées, je m'excuse de l'expression. Donc 1 à 2%. D'ailleurs, on n'emploie pas, quand on fait des dosages, le terme ménopause, parce que le terme ménopause a une connotation un peu péjorative, ce qui fait quand on dit une femme de 40 ans, c'est un dosage de ménopause, c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal. Donc on préfère employer le terme d'insuffisance ovarienne ou défaillance ovarienne précoce, etc. Mais donc ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas rare. 1 ou 2% des femmes sont déjà ménopausées à 40 ans, sans qu'on puisse le prévoir. Hein, parce que l'âge de la ménopause, c'est un âge qui est, c'est les ovaires qui vieillissent et on peut pas changer cet âge. Il n'y a pratiquement rien qui va le modifier parce qu'on nous pose souvent la question est-ce que j'ai eu les règles tôt ou tard, est-ce que je changerai ma ménopause? Il y a une question qui était, j'ai eu des enfants, est-ce que ça changera de la ménopause? La réponse est non. Une question qu'on nous a posée souvent, j'ai pris la pilule pendant 10 ou 20 ans, j'ai mis mes ovaires au repos pendant 10 ou 20 ans, ma ménopause sera-t-elle reculée? On peut répondre avec certitude aujourd'hui que non, ça ne changera rien. Donc la seule chose qui éventuellement peut avancer de 1 ou 2 ans l'âge de la ménopause, c'est le tabagisme et on sait que les femmes qui fument seront ménopausées 1 ou 2 ans avant les autres, comme on le sait. Parce que si d'un côté, mettons, on prend toutes les femmes de 49 ans, on met d'un côté les fumeuses et de l'autre côté les non-fumeuses, il y a toujours plus de ménopausées du côté des fumeuses. Par contre, on ne peut pas reculer l'âge de la ménopause, on peut compenser ce qui manque, mais aujourd'hui, en octobre 2018, on ne peut pas faire retravailler, remettre en route des ovaires qui ne fonctionnent pas, ce qui fait qu'une femme qui se retrouve en ménopause, en tout cas, perd sa fertilité. Aujourd'hui, on peut compenser ce qui manque, mais on ne peut pas refaire travailler les ovaires,
alors,
malheureusement.
Oui, mais est-ce qu'il existe malgré tout, le docteur Alain Tamborini, une question complémentaire, des maladies chroniques ou des atteintes particulières qui peuvent provoquer une ménopause précoce?
Ah bon, alors on peut avoir des ménopauses qui sont des ménopauses qu'on appelle iatrogéniques, donc créées par la médecine, c'est-à-dire bien sûr une opération, on a enlevé les ovaires, d'autre part une chimiothérapie, d'autre part une radiothérapie, etc. Mais autrement, c'est plutôt une, en général, quand on fait une exploration qui n'a pas eu cette ménopause brutale ou iatrogénique, quand on fait des explorations, dans la majorité des cas, on trouve rien. Et donc, c'est malheureusement quelque chose qui est programmé dans les ovaires d'une femme considérée qui ne se remettent pas en route. Maintenant, on peut traiter. Et c'est vrai que si on ne traite pas les ménopauses précoces, on se demande qui c'est qu'on va traiter. Parce que pour pas vieillir avec 10 ans d'avance, alors que la moyenne est de 50-51.
Alors, deux questions masculines qui concernent directement la santé des femmes et leur vie. Victor de Rosny-sous-Bois nous demande, est-ce que les femmes peuvent encore ressentir du plaisir après la ménopause? Question pas très lointaine, hein, de Cliver, de Lubumbashi en RDC. Que devient la sexualité pendant la ménopause? Est-ce que la libido diminue? Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle est inchangée?
Bon, alors déjà, je félicite Victor de se préoccuper du plaisir de sa partenaire. C'est pas le cas de tous les hommes, donc je le félicite de s'y intéresser. Donc alors, je dirais que la ménopause ne sonne pas, loin de là, l'heure de la retraite sexuelle. Et fort heureusement, on peut préserver sa sexualité et son couple bien au-delà de l'âge de la ménopause. Maintenant, quand on a un certain nombre de troubles, en particulier une sécheresse vaginale qui peut gêner les rapports sexuels, donc il y a des traitements, voilà. Donc on peut préserver sa sexualité bien au-delà de l'âge de la ménopause. Maintenant, y a-t-il une baisse de libido à la ménopause? Il est exact que c'est une plainte quasi quotidienne. On va considérer qu'il y a une petite baisse de libido à la ménopause, mais qu'elle est très corrélée à ce qu'elle était avant. Donc je dirais que si c'était très bien, ben ce sera bien. Si c'était bien, assez bien, c'est bien passable. Donc il y a une baisse d'un ton, pas d'un octave. Et si le couple fonctionnait bien, s'il n'y a pas de contentieux personnel, s'il n'y a pas quelque chose, parce que vous savez, de temps en temps, ben justement, on n'arrive pas intact à l'âge de 50 ans, on a toujours été un petit peu égratigné, voire cabossé par l'existence, donc il y a des choses qui ressortent, mais quand le couple marche bien, quand une femme se sent bien, eh ben, elle va le préserver sa sexualité très au-delà de l'âge de la ménopause. Maintenant, il y a une petite différence dans la chronologie des rapports sexuels au moment de la ménopause. La lubrification vaginale est un peu plus lente à venir, elle est un peu moins abondante et l'accès au plaisir est un petit peu plus difficile et plus laborieux et plus inconstant. Donc si on tient compte de ces paramètres, on conserve une sexualité, un couple très très au-delà de la ménopause, donc ne pas s'inquiéter.
Docteur Alain Tamburini, en tout cas, s'il y a un problème, en parler à son gynécologue.
Alors, toujours en parler à son gynécologue, voilà, parce que t'entends, les femmes n'osent pas trop en parler à leur médecin.
Comme nos auditrices tout à l'heure, arrêtez de subir, faut en parler et régler la question.
Arrêtez de subir, tout à fait, les gynécologues peuvent le comprendre, les gynécologues ont un cœur.
Et du savoir. Vous restez avec nous, docteur Alain Tamburini, gynécologue attaché à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On va tout de suite retrouver une de vos consoeurs au Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes en ligne avec le professeur Françoise Milogo. Professeur, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes chef de service de gynécologie au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédra Ouagadougou. Professeur Milogo, est-ce que les Burkinabés au féminin sont nombreuses à venir en consultation justement à la période de leur ménopause?
Non.
Et comment vous l'expliquez justement qu'elles soient peu nombreuses à venir? Elles n'ont pas justement, comme toute femme, des problèmes à régler à ce moment-là?
Alors, je dirais d'abord qu'une femme urbaine sur 7 présentant une ménopause symptomatique consulte, ce qui est très faible. Et la femme rurale ne consulte en général pas pour ce motif. Et quelles sont les raisons? La première raison, c'est que pour ces femmes, la ménopause est un phénomène naturel qui ne nécessite pas de traitement. Et pour certaines, le traitement de la ménopause s'apparente à un luxe, à cause de leur bas niveau socio-économique, de leur dépendance financière. Et pour d'autres, la ménopause est une préoccupation des pays riches, car devant la pauvreté de la population en général, et des femmes particulièrement, traiter sa ménopause est loin d'être la première préoccupation de ces femmes. Deux autres raisons, c'est que le traitement de la ménopause est peu connu par les bénéficiaires potentiels. Et la dernière raison, c'est que les femmes ménopausées ne font pas toujours la relation entre les troubles climatériques et la ménopause.
Alors, professeur Françoise Milogo, au fur et à mesure de la conversation, on a l'impression que vous éloignez. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher vraiment du téléphone. On s'excuse auprès des auditeurs. Vraiment beaucoup de problèmes de liaison pendant cette émission. Justement, vous nous disiez... Une femme sur 7 en milieu urbain qui vient consulter, est-ce que ça veut dire, ça dépend de quoi? Du niveau social, du niveau d'information, de ce que dit l'entourage?
Peut-être que la communication n'a pas été bonne.
Si on vous a compris. Justement, sur les raisons de cette consultation, qu'est-ce qu'on vous dit?
Raison que je viens de vous citer tantôt.
On a bien compris le contexte socio-culturel, mais qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces femmes? Elles vous demandent « soulagez-moi des bouffées de chaleur, soulagez-moi des douleurs » ou « j'ai trop pris de poids, qu'est-ce que je dois faire ?» Qu'est-ce qu'elles vous demandent en particulier?
Et les troubles les plus fréquents qui motivent la consultation sont surtout les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. Et il y a, mais en interrogeant, on retrouve d'autres troubles climatériques. Mais la femme n'ayant pas fait la relation entre ces troubles et la ménopause, c'est au gynécologue, par un interrogatoire approfondi, et de l'informer que ces troubles également ont lien avec sa ménopause.
Et professeur Françoise Milogo, quelle prise en charge leur proposez-vous?
Alors, la prise en charge est faite de conseils sur l'hygiène de vie, de conseils diététiques. Nous faisons également des prescriptions médicales, notamment des traitements hormonaux, après avoir bien évalué la balance entre le risque et le bénéfice. Il y a également les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, un apport en calcium, en vitamine D, des des suppléments alimentaires, des gels lubrifiants, des antidépresseurs si besoin en est, et surtout nous leur conseillons un suivi médical régulier, surtout à cet âge.
Dernière question, professeur Françoise Milogou, en matière d'information, on peut dire aussi de prévention, est-ce qu'il y a des messages à faire passer justement pour que les femmes viennent davantage consulter, pour qu'elles ne restent pas chez elles avec leurs problèmes, avec leurs soucis et parfois même avec leurs douleurs?
Tout à fait. Alors, les messages que je leur adresse, c'est que la ménopause, bien qu'étant un phénomène physiologique, peut occasionner des troubles extrêmement gênants, voire même des complications, notamment osseuses et cardiovasculaires. Le deuxième message, c'est qu'il existe un traitement de la ménopause qui permet d'améliorer la qualité de vie et de prévenir les conséquences à long terme de la carence œstrogénique. Le troisième message, c'est qu'il s'agit d'une période de la vie où la femme doit bénéficier d'un suivi médical régulier.
Merci beaucoup, professeur Françoise Milogou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de service de gynécologie au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo. On s'excuse encore pour la piètre qualité de la communication.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Docteur Alain Tambourignon, vous retrouve la ménopause. On l'a compris, hein, une période qui est perçue, qui est gérée de façon différente en fonction des origines, du lieu de vie, du milieu social, de l'éducation. Est-ce que le regard de la société sur les femmes ménopausées a changé ou est en train de changer?
Le regard, il est quand même un regard qui est difficile, voire cruel. Hein, sur la... Déjà, de toute façon, quand on vieillit, que ce soit un homme ou une femme, en particulier dans les sociétés occidentales, on est un petit peu dévalorisé par rapport à son image antérieure. Hein. Donc, quand on fréquente les congrès internationaux de ménopause, il y a toujours une table ronde sur les aspects socioculturels du vieillissement. Donc, on est dans
une société... Vous dites les hommes, les femmes, il y a un petit réflexe là, c'est quand même c'est très caricatural, mais c'est le cinéma.
Oui,
les hommes vieillissent mieux au cinéma que les femmes.
Ben oui, ça nous arrange. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est très difficile, je pense, pour une femme, effectivement, de vieillir, en particulier dans la société occidentale, où il faut rester jeune, belle et mince. D'ailleurs, quand vous voulez faire un compliment à quelqu'un, vous lui dites, tu fais jeune. Donc, c'est considéré comme un compliment. D'une autre personne, on va dire, elle accuse son âge. Donc, le fait de... Aux États-Unis, dans le temps, il y avait quelqu'un qui avait proposé que la chirurgie du vieillissement soit déductible des impôts, parce qu'on disait, si je fais moins jeune, je vais perdre mon emploi. Donc, je veux dire, on est dans une société où il y a une prime à la jeunesse. Donc, nous, on n'y est pour rien. Les médecins, c'est comme ça. Et donc, on est très exigeant avec les femmes. Mais je pense que dans cette course effrénée vers la jeunesse, la beauté, la minceur, les femmes sont à la fois victimes et bourreaux. Parce que quand on ouvre n'importe quel femme magazine... Hier, j'ai regardé justement un magazine très connu qui se vend toutes les semaines. Je citerai pas le nom. 55 pages de pub. Il y avait 42 pages pour la crème, les beautés, les parfums, les vêtements. Donc, on a quand même une pression qui s'exerce sur les femmes. Chez les hommes, bon, les pubs, on leur vend plutôt des grosses voitures.
Et des montres hors de prix.
Et des montres hors de prix et des grosses voitures.
Oui. On va prendre une auditrice, Johanna. On a encore une question en ligne. Ouais. Johanna, elle nous appelle de Paris. Il faut dire qu'avec Paris, au moins, le téléphone, ça passe. Bonjour, Johanna.
Bonjour.
On vous écoute, Johanna.
Oui, moi, ma question. J'ai 50 ans. Mm-hmm. Et depuis 10 ans, j'avais des bouffées de chaleur, mais ça a commencé d'abord la nuit, que la nuit. Et après, c'est passé toute la journée. Mais ce n'est pas ça qui me dérange le plus. Depuis 4-5 ans, je deviens triste, mais triste d'un coup. Je vois mes enfants, je commence à pleurer. Je ne sais pas, tout me rend triste, mais je ne sais même pas comment expliquer. Très triste d'un coup. À côté de cette tristesse, je commence à reprocher à mon mari tout ce que je lui avais dit de faire avant, ce qu'il n'a pas fait, là où il n'a pas été bien, comment il n'a pas... Il ne me faisait pas de compliments, comment il n'a pas fait. Je lui reprochais, et petit à petit, ce reproche, je suis devenue violente. Violente parce que tu m'as pourri la vie, tu ne vas pas avoir une bonne vie. Violente. Violente et triste. Mais violente, mais vraiment. Et... Pour mes filles, j'ai fini par aller voir le gynéco qui m'a donné un traitement hormonal. Et ce traitement, c'est de la crème un gel que je mets sur la cuisse, qui est un oestrogène. Mm-hmm. Et un gélule, enfin une ovule que j'avale, enfin l'oestrogène le matin et l'ovule le soir. Et ça a diminué cette tristesse à 80%. les bouffées de chaleur que j'avais, je sais pas, au moins 20 fois dans la journée, en fait, tout c'est, ça les a diminué, tout ça au moins à 80%. Sauf que la sécheresse vaginale ou la libido, ça, ça l'a pas augmenté. Attendez, c'est pas parce que je me fâche contre mon mari ou cette tristesse qui fait que ma libido a diminué. C'est pas ça le problème.
Tout à l'heure, vous décriviez votre humeur, votre mauvaise humeur, en ayant d'ailleurs des mots très durs contre vous-même. Je ne sais pas si c'est vraiment la réalité. Vous étiez dépassé par ces bouffées de colère, par cet énervement. Après, vous en vouliez. Est-ce que ce n'était pas votre tempérament? Parce que ces reproches, ils peuvent arriver au bout. Hein, je ne sais pas, vous avez 50 ans, au bout de 30 ans de mariage, ça peut arriver, des reproches à son époux. Puis il n'est peut-être pas parfait, cet époux. Donc, est-ce que vous étiez dépassé par vos vagues de sentiments?
Ah oui, oui, oui.
C'était pas vous?
Oui, je faisais les mêmes reproches avant, mais pas à le taper, pas casser tout.
Ah oui, on comprend, là, c'est... Oui, oui, là.
Jusqu'à ce que la police vienne.
Je faisais
les mêmes reproches avant, mais pas vouloir le tuer. Pas... Je faisais les mêmes reproches. Mais maintenant... Mais...
Est-ce que vous êtes calmée avec les médicaments?
Ça me calme. Oui, oui. Oui, ça me calme.
Docteur Alain Tamborini... Je ne sais pas si on peut mettre tous ces sautes d'humeur de Johanna sur le coup de la ménopause, ça paraît beaucoup. Oui. En tout cas, certains problèmes, ça, c'est clair, quand elle parle de sécheresse vaginale, oui. Problèmes sur la muqueuse. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage. Bon, toutes les femmes à la ménopause n'ont pas envie de tuer leur mari, hein, même si, hein, contentieux conjugal, vous avez dit au bout de 30 ans, des fois même avant, on a des choses à reprocher à son mari. Donc je dirais que les phénomènes hormonaux ne créent pas ex nihilo un problème, c'est-à-dire à partir de rien. C'est-à-dire les phénomènes homo jouent le rôle d'ampli. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu triste, eh ben devient très triste, voire suicidaire. Une femme irritable devient agressive. Nous, ce qu'on peut avec les phénomènes hormonaux, c'est couper l'ampli. Par contre, on peut pas, comme vous l'avez bien dit, changer la personnalité, l'environnement, parce que effectivement, ben il y a un seuil de tolérance qui est abaissé quand on a des problèmes hormonaux, un petit peu au niveau du syndrome prémenstruel. Eh ben une femme qui est en périménopause, c'est un petit peu, elle se retrouve dans la situation hormonale d'une femme, de la situation un peu désagréable qu'une femme connaît avant les règles, mais au lieu que ça dure 3 jours, ça dure 3 mois. Donc on peut comprendre, en plus, il y a un contentieux conjugal, familial, socio-professionnel qui remonte à longtemps, qui est des clashs un petit peu avec des épreuves un peu difficiles. En tout cas, le traitement hormonal n'est pas un traitement antidépresseur, mais il peut contribuer à améliorer l'humeur. Mais comme vous l'avez bien dit, ça dépend aussi du contexte. Donc ça exacerbe les troubles, les phénomènes hormonaux, mais on ne part pas de rien. C'est, on augmente et je peux pas changer la personnalité, l'environnement de quelqu'un.
Justement, Johanna, quand vous avez décrit tous ces excès, on va dire, à votre gynécologue, il vous a pas conseillé d'aller voir un psychologue pour prendre en charge votre tempérament explosif?
Non, c'est mon mari, j'ai amené, il a fini, quand je suis devenue comme ça, il a été voir, il a accepté enfin de venir voir un conseiller conjugal.
Mm-hmm. Donc, vous y êtes allé aussi, parce qu'en général, un conseiller conjugal, votre mari va pas le voir tout seul, vous êtes allé avec lui.
Je lui demande depuis 25 ans, il veut pas, donc avec ces explosions de violence.
Donc c'est bien ce que disait le docteur Alain Tamborini, il y avait quand même quelque chose qui couvait, la cocotte minute arrivait vraiment à l'excès et vous avez explosé, quoi.
Oui, et il est venu. Donc comme il est venu, c'est pas ça qui m'a calmée, c'est avec le traitement, je suis redevenue comme j'étais avant.
Vous dites ce n'est pas ça qui m'a calmée, Johanna, mais il n'empêche que vous avez eu un traitement, vous avez vu un conseiller conjugal, les choses se sont améliorées. Peut-être que ça a quand même contribué à améliorer toute cette vie de couple, hein, d'aller parler à quelqu'un et que votre mari se résolve enfin à regarder les problèmes en face.
Ah oui, 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 mais après la violence a éclaté après. Mais
après.
Quand je prends le traitement, je vois comment je suis, que je suis redevenue comme avant, même si je me fâche contre lui, je suis devenue ça a baissé au niveau que c'était. Je ne vais plus avoir cette violence-là, ça me diminue. Ça me convient. Ce qui m'embête, c'est la libido qui ne revient pas. Et la libido et la sécheresse. Et excusez-moi, ce n'est pas le contexte qui diminue ma libido. Ce n'est pas le contexte qui diminue qui fait ma sécheresse vaginale, parce que c'était bien avant.
C'était bien avant. Bah, peut-être qu'il faut simplement en reparler avec votre gynécologue, essayer de voir avec lui s'il y a d'autres façons d'améliorer les choses. Tout à l'heure, vous aviez parlé de crème lubrifiante, par exemple.
Oui, alors on peut avoir un traitement pour la sécheresse vaginale, donc c'est un traitement de fond, et au moment du rapport, mettre un lubrifiant, donc il y en a toute une gamme en vente libre, donc en pharmacie, pour améliorer donc la qualité des rapports, en sachant, comme je l'avais dit, c'est que la chronologie des rapports sexuels change, donc les rapports à la va-vite bâclée à 20 ans, ça marche pas, la ménopause, c'est la cata. Et il y a la pente des difficultés sexuelles et savonneuses, donc quand on a un rapport qui marche pas bien, le coup suivant, on a mal, etc. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps dès le départ et essayer de le résoudre. Mais en général, quand même, si ça se passait bien avant, si le contentieux conjugal, si la personne n'est pas trop fatiguée, si, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs que les périodes de vacances sont plus propices à l'activité sexuelle, quand on se retrouve plus détendu, etc. En tout cas, je remercie Johanna, parce qu'elle a quand même fait un plaidoyer pour le traitement hormonal de la ménopause, et quand ça vient d'une patiente améliorée, des fois c'est plus crédible que voilà. Quand ça vient du gynéco.
Et, Johanna, et puis merci beaucoup pour votre franchise, hein, parce que vous n'avez pas mâché vos mots, vous racontez ce qui se passe. Beaucoup de gens appellent sans dire forcément ce qui se passe vraiment à la maison. Là, on en a eu vraiment plein les oreilles, et on vous souhaite très bon courage, parce que vous avez vraiment l'air déterminé à vous en sortir. Très bonne journée, Johanna. On n'a pas le temps de prendre un dernier appel, mais je vais lire un témoignage qui nous est arrivé. C'est celui d'Alidia, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle dit, là encore, ça va justement dans le sens que vous disiez, ça encourage à être prise en charge et d'aller voir son gynécologue, d'aller consulter. Je suis ménopausée depuis mes 49 ans. Je redoutais vraiment cette période, car ma mère en avait beaucoup souffert. Je me suis donc bien préparée avec mon gynéco. J'ai connu les bouffées de chaleur, les nuits blanches. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, je cite toujours, et je pète la forme. J'ai suivi les conseils de mon gynéco, ça a très bien fonctionné. Je veux une seconde jeunesse, la libido est revenue. La ménopause n'est pas seulement une période grise ou une période sombre.
Je peux dire.
Dites-moi.
Ouais, je voulais simplement dire un mot aussi. Je voudrais pas faire un plaidoyer que pour les gynécos. Je dirais aussi que les médecins traitants, les médecins de famille qui connaissent bien la femme dans son environnement et qui la connaissent souvent depuis longtemps, est aussi très bien placé pour prendre en charge.
Et même dans certains lieux des sages-femmes.
Et même dans certains lieux des sages-femmes est très bien placé pour prendre en charge les troubles de la ménopause. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin. En tout cas, le message, c'est faites-vous suivre régulièrement avec ou sans traitement. Et si vous avez une altération de la qualité de vie, surtout consultez. Ne vous résignez pas, il y a des solutions qui peuvent améliorer votre qualité de vie, parce que les troubles, on vous dit ça va passer, oui ça va passer, mais si ça passe dans 10 ou 15 ans, et si ça vous pourrit l'existence pendant ce moment-là, il y a des solutions.
Et puis l'hygiène de vie, c'est très important. On disait tout à l'heure les risques justement de prise de poids, quand ça peut entraîner des maladies plus graves. Après, aussi la sédentarité, on peut vraiment conseiller aux femmes de reprendre à ce moment-là une activité physique, c'est important.
Oui, tout à fait. Par exemple, quand quelqu'un est en métro, on peut lui dire arrêtez-vous à une station avant et marchez. Hein. Je pourrais dire, il faut pas faire comme Winston Churchill, vous savez ce qu'il disait. Il disait, quand l'envie me prend de faire du sport, je m'allonge sur mon lit et j'attends que ça se passe.
Donc, c'est pas la bonne idée.
Ne pas faire comme Winston Churchill, mais faire un peu d'exercice physique.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Alain Tamborini. Je rappelle que vous êtes gynécologue attaché à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Les questions des auditeurs au docteur Catherine Solano, sexologue. Catherine Solano qui est à mes côtés. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
Et c'est Aboubacar que l'on retrouve en ligne de Bamako. Aboubacar, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors le docteur Solano vous écoute. Vous avez une question à lui poser. Aboubacar, on vous écoute.
Bonjour, docteur Solano.
Bonjour,
merci de me permettre d'intervenir sur cette émission.
Allez-y.
Au fait, docteur, dans les villages les plus reculés du Mali, et souvent même à Bamako, le citron est utilisé comme une méthode de contraception. Donc, mes questions sont les suivantes. Quel impact a le citron sur le sperme? Tue-t-il les spermatozoïdes? Cette utilisation du citron sur le pénis ou le vagin rend-il les rapports sexuels inféconds? La troisième question est, si cela rend les rapports sexuels inféconds, le système de contraception utilisé par certaines personnes a-t-il des effets secondaires indésirables?
Alors, si je comprends bien, docteur Solano, Aboubacar demande si, par exemple, en mettant du jus de citron sur le sexe, eh bien, ça peut servir soit de contraceptif, soit de protection contre les IST, c'est bien ça?
Effectivement, c'est ça.
Catherine.
Alors la réponse, c'est non. Hein. Placer un citron ou du jus de citron sur le sexe masculin, ou j'ai déjà entendu dire placer un demi-citron à l'intérieur du vagin ou du jus de citron, ça ne protège pas du tout contre une grossesse. encore moins contre une infection sexuellement transmissible. Je dirais même au contraire, c'est une pratique à très haut risque parce que non seulement c'est pas du tout efficace, mais en plus c'est dangereux. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu dire des garçons qui disaient à une fille, si tu bois un jus de citron, tu seras pas enceinte. Et ben, ça marche pas non plus du tout, hein.
Éviter le jus de citron. Oui. Alors justement, là par contre, c'est très sérieux, docteur Solano. Quels sont les risques justement de ce genre de pratique?
Eh ben, le risque, c'est que le jus de citron, c'est très acide. Donc si vous le mettez au contact des muqueuses, donc soit à l'intérieur du vagin, soit au niveau du gland, elles vont être fragilisées et irritées parce que c'est pas une bonne idée de mettre de l'acide fort sur des zones comme ça. Et donc, chez une femme comme chez un homme, ça va augmenter le risque d'infection sexuellement transmissible parce que la muqueuse va être irritée, donc les virus vont traverser plus facilement. Et en plus, chez les femmes, ça peut provoquer beaucoup plus de mycoses vaginales, déclencher des mycoses parce que l'hyperacidité, ça déclenche des mycoses, ça tue la flore vaginale, le vagin se protège beaucoup moins bien.
Alors, docteur Solano, il y a toutes sortes de recettes, hein, recette miracle soi-disant, pour éviter les grossesses, pour éviter les IST. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi, j'en pense, écoutez, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était là-dessus, parce que je travaillais pour un magazine où les filles disaient, il m'a dit que si je buvais du jus de citron avec du Coca-Cola avant, je serais pas enceinte, que si je mettais du Coca-Cola dans mon vagin, je serais pas enceinte, des trucs, ou des herbes, ou des plantes. En fait, eh ben, ça, c'est pas la peine d'essayer, parce que ça ne marche pas du tout. On croit qu'on est en sécurité, mais c'est totalement faux. Et en plus, ces pratiques augmentent plutôt le risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles. Donc, on a quelque chose qui marche très bien contre les grossesses et contre les infections transmissibles sexuellement, c'est le préservatif. Donc pourquoi aller chercher des choses compliquées, dangereuses, alors qu'on a des choses qui sont efficaces?
Voilà, Aboubakar, cette réponse du docteur Catherine Solano, vous avez bien compris, hein, le jus de citron, c'est bien dans un verre pour boire ou à la limite sur un poisson.
Oui, c'est d'accord. Merci beaucoup, Caroline.
Très bonne journée à vous, Aboubakar. On va passer maintenant à une question Facebook. C'est une question que Norbert du Tchad a posée sur notre page Facebook. Je vous la pose donc, docteur Solano. Combien de fois de suite faut-il faire l'amour pour satisfaire une femme?
Alors, j'ai un grand sourire en étendant la question parce que pour quasiment toutes les femmes, ce qui compte dans les rapports sexuels, c'est la qualité et pas du tout le nombre de rapports sexuels. D'ailleurs, je vous rappelle que quand un homme dit « j'ai eu 4 rapports sexuels hier soir », eh ben, je traduis en français, hein, ça veut dire « j'ai eu 4 fois une éjaculation ». Or, c'est pas du tout l'éjaculation qui va donner du plaisir à une femme, donc c'est pas du tout la quantité qui est importante.
Alors justement, qu'est-ce qui donne du plaisir à une femme?
Alors justement, le plaisir d'une femme, souvent, il part beaucoup plus du clitoris que de la pénétration. Et beaucoup de femmes ont plus facilement un orgasme par stimulation du clitoris au risque par la pénétration. Du coup, c'est pas parce qu'elles durent très longtemps qu'elles ont forcément plus de plaisir.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Certaines femmes ont du plaisir aussi au moment de la pénétration.
Oui, alors beaucoup de femmes, j'irais même la plupart, ont du plaisir au moment de la pénétration, mais pas forcément un orgasme. On sait que le plaisir lié à la pénétration, le fait d'avoir la possibilité d'avoir un orgasme, c'est plutôt lié aux pressions sur les parois vaginales et à la lenteur des mouvements. Et alors, beaucoup d'hommes croient qu'il faut aller vite, faire des va-et-vient rapides, et ça va provoquer une éjaculation chez l'homme, mais ça provoque pas spécialement des orgasmes rapides et répétés chez les femmes.
Ce qu'on comprend aussi, hein, vous disiez tout à l'heure sur le plan physique, mais la satisfaction sexuelle, ce n'est pas simplement physique.
Eh bien non, et les femmes le savent très bien, pour la plupart, hein, c'est qu'une femme a souvent beaucoup plus de plaisir à avec un homme qui sait faire monter son désir, qui pendant la journée lui fait des compliments, lui montre qu'il l'aime. Et je peux vous dire que certains hommes sont désagréables pendant leur journée avec leur femme et ils comprennent pas du tout pourquoi malgré une bonne érection, un rapport sexuel durable ou plusieurs, elle a pas l'air heureuse. Et ben c'est parce que les émotions comptent beaucoup dans la sexualité. Et donc je dirais que la bonne question ce serait pas combien de rapports sexuels il faut, c'est plutôt combien d'amour et d'attention il faut pour satisfaire une femme.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. On vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique Priorité Santé. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Victor Hull et aujourd'hui Laurence Snow. Demain, bien manger, boire et respirer en Afrique. Nous parlerons de la santé et de l'environnement, des polluants. Émission en partenariat avec le magazine Votre Santé. Pour les questions, 33 84 22 75 75 et notre page Facebook. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.